Bienvenue à tous dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Au programme du Labomatique cette semaine, nous partons faire connaissance avec Poppy, robot d'environ 80 cm à assembler et programmer soi-même. Inventé par le laboratoire Flowers de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique de Bordeaux, ce robot signe une nouvelle ère dans le rapport de nos sociétés à la robotique. Loin d'être le seul robot capable d'apprendre, il constitue pourtant un formidable objet d'expérimentation et de pédagogie. Son architecture et sa programmation sont disponibles en open source, l'occasion pour chacun de se familiariser avec ses pratiques et ainsi contribuer au développement des usages de la robotique dans notre quotidien. Allez, je vous emmène au LabFab de Rennes où se tenaient des ateliers de conception début avril.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus.
Je m'appelle Benoît Evelin, je travaille à l'espace des sciences autour des communautés en ligne et donc aujourd'hui on est au Fab Lab à Rennes pour, en fait pour le montage du robot Poppy qui est un événement national. Six centres de culture scientifique se partagent, participent à ce montage où, du coup à donc Caen, Bordeaux, Toulouse, Grenoble et Paris, ainsi que Rennes, on monte des robots avec du public pour intéresser les gens à ces thématiques-là. Alors sur ce projet précisément, donc c'est ouais, un des laboratoires d'INRIA Bordeaux qui a mis ça en place. Et le but de Poppy, c'est d'étudier l'apprentissage de la marche chez l'humain. Donc plutôt que de prendre un enfant et puis de lui arracher une jambe, on préfère tester ça avec un robot. Déontologiquement, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Et du coup, grâce à ce système-là, ils ont créé le robot, qui est un robot qui a une morphologie qui se rapproche de la morphologie humaine, et en jouant sur des paramètres mécaniques principalement, et également des paramètres logiciels, ils peuvent recréer la marche. Donc, ils ont proposé une partie en fait de leurs connaissances et les plans du robot en open source pour que les gens puissent récupérer ces plans, se réapproprier le robot et inventer de nouvelles manières de faire tout en les partageant auprès de la communauté.
En plus, il fallait en mettre 4.
Non, j'en ai mis 2.
Ouais, c'est ça.
Ouais, il fallait les sortir.
Ouais, j'ai gagné. Laisse-moi en mettre 2 autres. C'est bon, j'ai trouvé le bon équilibre. Sinon,
je mets les entre toi, ce qu'ils vont avec.
Alors l'idée avec Poppy aussi, c'était que donc on va revenir un peu sur cette idée de open source, open hardware, etc. Ces notions-là qui ne sont pas forcément connues de tout le monde. L'idée, c'est qu'il est arrivé en pièces détachées ou vous l'avez reconstitué au LabFab grâce à l'imprimante 3D?
Alors oui, pour cette opération, il est arrivé en pièces détachées. Mais c'est des pièces détachées qu'on a fait fabriquer par un seul et même fournisseur de manière à mutualiser les coûts. Autrement, on peut très bien récupérer les pièces, les imprimer en 3D au lab, acheter les moteurs, tout assembler. Et voilà, on se retrouve avec un Poppy, prêt à programmer.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces notions d'open source, d'open hardware? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu l'as un peu esquissé dans ta réponse tout à l'heure. Open source, on imagine que c'est pour se réapproprier les éléments de programmation du robot. Mais est-ce qu'il y a une programmation déjà prédéfinie à la base? Est-ce qu'il y a une base de travail pour les gens qui veulent se réapproprier tout ça?
Alors déjà, l'open source, effectivement, vient du monde du logiciel. Généralement, comme tu disais, c'est du logiciel, tu as parlé de logiciel. Sauf que l'open source, ça concerne aussi beaucoup d'autres choses, et ça concerne aussi la mécanique. Et les pièces mécaniques sont en open source. C'est-à-dire qu'elles ont été créées sur un logiciel, et chacun peut les récupérer, les modifier, les transformer, enfin faire des choses avec. Pareil pour le logiciel, pareil pour les bases de programmation. Avec ce qui est disponible à l'heure actuelle, on peut monter un robot, et on peut lui programmer des éléments de base. Cependant, Poppy, par rapport aux éléments qui sont disponibles en open source, ne peut pas marcher, par exemple. Et là, c'est là où les communautés peuvent intervenir pour pouvoir créer des éléments, créer des morceaux de logiciels, vraiment programmer ce qu'il faut pour que Poppy sache marcher ou sache apprendre à marcher.
Ouais, elle doit être. Vous avez vu comment je fais, les gars?
Opéré aussi,
ouais.
Je remplis le trou de colle et après je fous la petite vis dedans, enfin le petit écrou dedans.
Ok.
En plus, quand, si c'est monté, c'est plus facile.
Donc je mets du bout de la pince là, pour bien le mettre bien en place.
Ah ouais.
Et après, j'essuie le trop plein de colle.
On a pas fait
ok, bon, bah t'as trouvé une tactique.
Voilà, ça marche pas trop mal. Hein.
Je vais mettre en route.
Oui, c'est vrai.
Je le remets bien en place, mais ça a l'air d'être pas mal. Là. Hop là.
Ah.
C'est bon. Attends, ça
s'échappe. Je me demande s'il peut parler.
Ah là, je pense qu'il y a surtout plein de moteurs, donc je sais pas s'il parle, mais en tout cas, il doit bouger.
Ouais. S'il y a des moteurs, c'est qu'il peut bouger, à mon avis. Sinon, ça sert à rien.
Il doit bouger, ça c'est sûr. Parler, c'est pas sûr.
Ouais. S'il bouge pas, bah, alors ça sert.
Poppy, c'est par ailleurs donc un projet communautaire. On reviendra encore sur cette notion communautaire hein, autour de ce projet. Mais c'est en lien aussi, il me semble, avec d'autres types de projets. Alors, il me semble avoir vu des choses en rapport avec Arduino. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en toucher un petit mot? Parce que c'est un mot, un système d'exploitation, je ne sais pas exactement comment on peut dire ça, qui commence à sortir un peu de la communauté des experts. On commence à l'entendre de plus en plus parler, mais ce n'est pas forcément très connu pour le moment.
Ouais, là, ouais, c'est un peu sortir du sujet, tout en étant assez proche, étant donné que Poppy, de par les éléments qu'il y a à l'intérieur, possède, enfin, il a un ordinateur dans la tête, littéralement. Arduino, on est sur quelque chose d'assez proche, c'est un microcontrôleur, ce qu'on appelle un microcontrôleur. Donc c'est un, voilà, pour vraiment simplifier, un petit ordinateur sur lequel on va pouvoir injecter des éléments de programmation qui vont réagir à des entrées et des sorties. Donc sur Arduino, qui est un projet qui est lui libre, c'est-à-dire on peut récupérer les codes et en faire absolument ce qu'on veut, commercialiser, fabriquer sa carte, enfin on fait vraiment ce qu'on veut. Arduino permettre de générer en fait des petits automatismes de la vie quotidienne et des choses comme ça. On va pouvoir contrôler ses prises de courant pour savoir ce qui se passe. On va pouvoir savoir si sa plante en pot a besoin d'avoir un peu plus d'eau. On va pouvoir nourrir son chat. Enfin, les possibilités sont assez immenses. Hein. Là, j'ai parlé d'exemples très basiques, mais on peut aller sur des systèmes qui vont bien au-delà. C'est un système qui est modulaire, l'Arduino. On peut rajouter une puce pour avoir du Wi-Fi, on peut rajouter une puce qui va capter la température, on peut rajouter des composants électroniques, et puis on peut mettre ça dans une voiture télécommandée, on peut mettre ça, je sais pas moi, sous son skateboard ou dans sa bagnole. Enfin, les possibilités sont vraiment énormes. Donc effectivement, ça commence à devenir de plus en plus grand public, et le lab est là aussi pour accueillir des gens qui seraient intéressés, qui voudraient se lancer là-dedans. Il y a d'autres solutions qui existent. Arduino est une solution qui utilise derrière un logiciel, enfin un langage de programmation qui est particulier, qui est Java. Il y a d'autres systèmes qui existent, comme le Raspberry Pi, qui lui utilise Python. Bref, il y en a pour vraiment tous les goûts, en fonction du langage qu'on souhaite apprendre et de ce qu'on souhaite faire derrière pour pouvoir créer un petit peu des projets de do-it-yourself.
Alors là, tu viens de nous dresser une variété d'usages assez impressionnante, puisqu'on a parlé finalement un peu domotique, mais on peut imaginer plein de choses. J'imagine que c'est ça aussi tout l'enjeu du projet Poppy, c'est de ne pas se cantonner à des usages prédéfinis. Et c'est là tout l'enjeu pour le public, c'est de définir par lui-même, par l'action de programmation, les usages qu'il va vouloir assigner à son robot.
C'est ça, c'est l'intérêt en fait d'avoir un robot qui est un robot de recherche. On aurait pu acheter un robot sur étagère, voilà, un truc préprogrammé dans lequel il y a un petit logiciel qui permet de lui dire tu vas faire un pas à droite, un pas à gauche. Le choix d'avoir Poppy, c'est d'avoir une plateforme qui est extrêmement ouverte, sur laquelle on peut vraiment prendre des initiatives, on peut vraiment se dire allez hop, on va faire autre chose. Si on veut rajouter quatre pattes, si on veut mettre quatre pattes à Poppy pour en faire un centaure, on peut. Alors qu'on n'aurait pas pu le faire avec le robot qu'on aurait acheté, qui aurait été construit par une firme japonaise, coréenne, ou voire même française. Ce ne sont pas des robots qui sont prévus pour. C'est plus compliqué du coup, parce qu'il faut faire énormément de choses, et il y a un travail énorme à faire pour pouvoir programmer Poppy. Mais derrière, on a une liberté qui est absolument énorme.
Ici là, du sternum, moi je ne fais pas des épaules.
Moi, il est
ici. J'essaie de libérer.
De libérer une hauteur.
Ouais, on va peut-être pouvoir attaquer en fait la partie supérieure, celle-là.
D'accord.
Donc il y a un moteur à placer, donc il me faut un MX28 supplémentaire. Je peux chercher ça.
Je sais pas encore, j'attends les instructions. Donc, je sais pas si ça va être la partie épaule ou la partie au-dessus des hanches.
Ouais,
C'est pas qu'il y a un sens. Donc j'attends le... les instructions. Ben, je trouve super. Hein. Super. Bon, il y a encore, heureusement qu'il y a encore le robot déjà tout monté pour voir l'exemple, parce que sinon ça serait compliqué. Là,
les moteurs, ils sont portés de deux épaules, Laurent.
Donc là, c'est bon. Oui. Ok, le sens était bon.
Donc on peut monter un land sur celui-là, en fait. Donc ici, en fait, pour monter en fait, la petite platine, vous avez l'habitude peut-être, parce que généralement, ouais, on commençait en fait à un tour de table. On demandait juste aux gens en fait, ce qu'ils animaient pour venir s'ils avaient déjà en fait, un bagage ou si c'était en mode découverte. Ou...
Je manque plutôt à la base d'une formation de maintenance en électronique, mais pas du tout robotique.
Pas du tout robotique, mais l'habitude de manipuler peut-être. Alors peu, du coup, parce que là, en fait, le principe, donc il y a la petite platine de plastique ici, et c'est d'aligner, puisque après on va utiliser, on a besoin d'un repère en fait au départ. Donc il y a ici une petite encoche en fait sur marqué là, je sais pas si
ah oui d'accord,
et qu'il faut aligner en fait avec celle
du point zéro, quoi.
Voilà, c'est le point zéro tout à fait, oui, du okay. moteur, et en fait il faut juste qu'on aligne correctement en fait.
Ah, c'est vraiment tout petit, tout fin.
Ouais, c'est tout petit. C'est pour ça que c'est peut-être l'opération la plus qu'il est un peu engagé, okay. Bon, c'est un petit peu dur, mais on va utiliser, une fois qu'il est bien positionné, c'est d'avoir en fait la platine aussi qui est alignée un petit peu en dessous, et avec la vis principale en fait. Alors on peut appuyer un petit peu une fois qu'il est bien engagé, pour avoir un bon...
Parmi les usages, on va dire, les plus remarquables qui existent aujourd'hui de Poppy, est-ce que tu aurais peut-être des exemples pour que nos éditeurs soient au clair avec l'idée qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi ?
Ben pour l'instant, il y en a très peu, parce que l'opération qu'on fait aujourd'hui est une opération vraiment de lancement, pour laquelle il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment d'éléments. On explore en fait. Donc des choses qui ont pu être faites avec Poppy, de ce que j'en sais, pour le moment, et ben déjà, une RIA le fait marcher. Ce qui est déjà pas négligeable. Et c'est-à-dire le faire marcher, c'est pas le programmer en lui disant tu vas faire un pas à droite, puis un pas à gauche, puis un pas à droite, puis un pas à gauche. C'est tu vas réfléchir à comment tu vas poser tes jambes de manière à pouvoir avancer. Et ça, c'est énorme, parce qu'on n'est pas vraiment dans la programmation de succession d'étapes mécaniques. On est dans le robot acquiert l'ordre d'avancer et va générer lui-même les ordres pour pouvoir avancer. Donc on commence à rentrer dans ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence, ce qui peut être un peu effrayant pour certains, mais qui est une réalité qui existe déjà par ailleurs sur d'autres robots. Voilà, il y a des possibilités qui sont immenses par rapport à ça. Pour citer un exemple, sur Mars, à l'heure actuelle, il y a Curiosity, ce robot énorme qui a été lancé, qui est vraiment une prouesse technologique phénoménale. Il faut 20 minutes pour donner un ordre à ce robot. Donc par exemple, on lui dit, allez hop, tu vas aller tout droit, et une fois que tu es arrivé là-bas, tu attends tes nouveaux ordres. Si le robot se lance comme ça, en allant tout droit, et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu, il faut 20 minutes pour avoir l'information, comme quoi par exemple il y a un caillou sur le chemin, 20 minutes pour lui dire de s'arrêter. On est sûr de le perdre. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un robot. Et enfin, il a un comportement de robot, il est capable d'assimiler son événement, il est capable d'assimiler son environnement. Et en fonction de ça, il va être capable d'avancer en prenant en compte tous les éléments de manière à arriver à bon port. Donc on lui dit d'aller quelque part, et il est capable d'y aller.
Ce que tu es en train de nous dire, si je reformule, c'est qu'on ne lui fait pas faire, on lui apprend à faire.
Exactement. Et il y a un autre projet de Flowers qui avait été, enfin du laboratoire d'INRIA, qui s'appelle le laboratoire Flowers, qui avait été mis en place avec ce qu'on appelle les ergo-robots. C'est un projet qui a été fait avec la Fondation Cartier. Donc il se présentait un peu comme étant une installation comme une installation artistique où il y avait 5 robots. Donc c'est des têtes emmanchées sur des bras avec des moteurs. C'est pas un humanoïde, c'est pas hyper impressionnant. Et c'était par contre des robots qui étaient capables de communiquer entre eux. Pour se passer une balle, pour réagir à des actions, pour réagir à l'environnement. Jusque là on peut se dire, bon, c'est un peu vague. Sauf que le truc qui était très fort, c'est que derrière, ils étaient capables de communiquer entre eux et ils se sont créés un langage. Ça, c'est quand même assez énorme. Et donc, c'était des robots qui étaient capables de réagir. Et quand on peut voir des vidéos sur Internet, hein, c'est assez phénoménal de voir ça. On cherche Ergo Robot, on trouve la vidéo. Et on les voit se dresser tous ensemble d'un coup parce qu'ils ont eu une succession de comportements, une succession de positions qui a fait qu'ils sont d'accord sur le vocabulaire. Et ils ont comme ça créé un vocabulaire avec toute une taxonomie où ils étaient capables de désigner une balle rouge, une balle verte. Et même, de manière très surprenante, à la fin, ils ont été capables de désigner des gens dans le public.
Un bon serrage, ouais, la vis va nous aider en fait, à positionner, à rapprocher la pièce, parce qu'ils sont un peu durs. Et une fois qu'ils sont engagés, c'est clair qu'on a...
Ok, il faut à peu près positionner le...
Ouais, il faut...
La petite rondelle,
pour pas qu'elle, qu'elle soit alignée en fait, avec l'ensemble du disque. Et puis, alors là, je pense que peut-être une vérification, parce que je sais pas si je l'ai positionné correctement, peut-être un peu... On peut l'enlever complètement, hein. Vous pouvez recommencer l'opération là, après, de toute façon.
Donc là, le connecteur, hein, c'est
la pièce. Après, la suite, c'est quoi?
C'est un truc qui fait...
C'est ça,
ouais, mais non.
C'est pas la vôtre.
C'est pas la
nôtre.
C'est celle qui est là-bas, donc.
Alors, faut bien vérifier par rapport si c'est bien la bonne pièce par rapport à votre main. Et il faut regarder ça par rapport à la butée et la forme de la pièce.
On n'arrive pas à faire un quadrupède, alors.
Et on y arrive. Ensuite, à vous de trouver dans quel sens on est.
On n'arrive pas à imprimer les pièces.
Thomas. Non, c'est pas vrai. Oui, mais faut savoir si c'est par rapport
à... Est-ce que c'est la bonne pièce, déjà?
Je sais pas, c'est la butée, elle doit être dans quel sens. Ici, en fait, quand il fait un...
À la fin, quand il remonte, ça fait un surplomb. La machine, ça décolle, ça sèche, quand elle fait tout, ça fait un truc qui décolle, donc il y a plus comme ça.
Voilà, tu veux ramener
les elle a avant, mais elle a pas.
C'est ce moment-là.
Ce qui concerne la programmation, moi personnellement, je code très peu. C'est vraiment pas mon domaine d'activité. Voilà. Après, apprendre à coder, c'est apprendre une langue. Bon, je sais pas parler chinois, je sais pas si toi tu sais parler chinois par exemple, mais j'aurais plus de difficultés. On sait maintenant que les gens auront plus de difficultés à apprendre le chinois qu'à apprendre un langage de programmation. Donc ça reste vraiment pour chacun. Faut se mettre à ces choses-là. Les différents langages de programmation peuvent parfois amener à des interopérabilités, ou mieux, des personnes vont créer des interfaces de manière à ce que des gens, ça se présente vraiment comme un jeu, par exemple. Voilà. Il y a un système de programmation qui fonctionne, qui peut fonctionner sur Arduino, qui peut fonctionner sur Raspberry Pi, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle le Scratch, qui a été développé par le MIT et qui est à destination des enfants, où ils ont juste à assembler des petites briques comme des Lego à l'écran. Et ça crée en fait des boucles logiques, ça permet d'implémenter des variables, et ça permet du coup de générer, de faire du code en fait, littéralement, ouais, de programmer.
Alors là c'est super intéressant, est-ce que tu abordes une autre dimension du projet Poppy, puisque tu soulignes aussi la possibilité de ludifier le rapport à la programmation. C'est aussi un outil pédagogique, il me semble que ça a été utilisé dans différents lycées, un outil pédagogique, mais pourquoi ?
Alors je vais répondre vraiment du point de vue de l'espace des sciences. Avoir un robot comme ça, ça permet d'explorer des univers qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut d'habitude présenter dans nos expositions. Là, à l'heure actuelle, on a une exposition sur les fourmis, une sur la biodiversité. On tourne beaucoup sur des choses qui ont à faire à ce qu'on appelle vraiment les sciences dures. Donc ça va être la biologie, ça va être... Là, on va pouvoir rentrer dans d'autres choses qui sont la mécanique, la programmation, l'électronique. Et... plein d'autres possibilités. On peut aussi rentrer dans la socio avec le rapport au robot. Les possibilités sont vraiment sont assez infinies. Et à l'occasion des ateliers, c'est aussi prendre le retour et un peu prendre le pouls des gens pour essayer de savoir qu'est-ce qui vous intéresserait autour de la robotique, qu'est-ce qui vous intéresserait comme type d'atelier, comme type d'activité.
C'est que le robot, il suffit pas qu'il ait des moteurs dans tous les sens, il faut qu'il sache. Ah là, je suis en train de tomber en avant. Ah là, je suis en train de tomber en arrière, pour qu'il puisse réagir, pour qu'il puisse mettre les moteurs, je sais pas, mettre son équilibre vers l'arrière quand il est en train de tomber en avant.
Ouais, ou mettre son équilibre en avant s'il est en arrière.
Voilà, s'il est en train de tomber en arrière. Donc pour ça, il faut qu'il ait un capteur qui dit est-ce que je suis en train de tomber en arrière, est-ce que je suis en train de tomber en avant, est-ce que je suis en train de tomber sur le côté. Donc peut-être qu'il a ça dans la tête. J'imagine que s'il en a un, c'est dans la tête. Un capteur comme ça, peut-être.
Pourquoi je sais pas,
mais tu vois, on voit qu'il a des choses dans la tête, il y a des fils qui sortent, je sais pas ce qu'il a dedans. Mais peut-être qu'il y a un capteur comme ça, certainement. Mais
qu'il a avec des yeux.
Ouais, je sais pas, peut-être. Je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais il a des fils qui sortent, donc il doit avoir quelque chose dans la tête.
Ouais, sinon ça passerait pas par la tête.
Parmi les choses qui sont peut-être possibles, je sais pas, tu vas pouvoir me le dire, est-ce qu'on peut humaniser encore plus Poppy en lui programmant peut-être un algorithme de sensibilité ou d'avoir des émotions, d'être caractériel, je sais pas.
On peut faire ça et on peut faire absolument le contraire, avoir un Poppy qui est complètement détaché. Enfin, c'est Après, ouais, là, on rentre dans un domaine un peu du rêve, étant donné qu'on n'a pas encore la possibilité de le faire et que tout reste à construire. Mais ouais, les possibilités sont vraiment infinies. On peut s'en servir vraiment comme une marionnette. On peut l'humaniser à fond. On peut l'habiller. On peut, voilà. On est allé acheter des chaussures à Poppy, vu qu'il est fait en nylon. Son squelette est fait en nylon et donc du coup, quand il se redresse et qu'il est sur une surface lisse, il glisse. Il a fallu lui acheter des chaussures. Et dans le magasin, on allait dans un magasin pour enfants. Il y avait une petite fille qui a eu très peur du robot. Parce que le robot achetait des chaussures. Et le robot était trop humain, en fait. Donc, il y a vraiment tout un rapport aux gens, un rapport à, ouais, à l'appréhension des robots, où ben, les gens se posent des questions. Les gens se disent, oui, ces espèces de robots, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Dans la culture, les premiers robots, on les voit au cinéma. On les a vus dès le début du cinéma. Il y a un film de Georges Méliès, qui date de 1901, qui parlait déjà d'un robot, qui reprenait Coppelia, en fait, qui est un ballet classique qui lui-même est issu de comment ça s'appelle, d'un conte. Enfin, en tout cas, d'une nouvelle qui a été créée. Il y a des contes qui existent autour d'éléments qui sont robotiques. Le conte de Pinocchio, c'est pareil. Voilà, on rentre dans des choses comme ça. L'humanisation du robot ne date pas d'hier. Mais sauf que maintenant, elle commence à devenir réelle, elle commence à devenir palpable. Mais des robots, il y en a déjà partout. Des éléments qui sont capables de réfléchir tout seuls, c'est déjà le cas. Un lave-linge. Beaucoup de lave-linges sont capables de faire ça. Il y a des voitures qui arrivent à se piloter toutes seules. Voire même des poids lourds. Donc, la robotique, elle est vraiment déjà présente dans la vie de tous les jours. Mais les questions qu'on peut poser derrière, c'est plutôt le rapport entre l'humain et le robot. Et une autre question qui est intéressante de poser, c'est la question avec autour des objets connectés. Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de dépendance ? Est-ce que jusqu'à quelle limite les objets peuvent être connectés ? Jusqu'à quelle limite ils peuvent prendre des décisions ? Ça reste des questions philosophiques qui sont très ouvertes. Et un début de l'espace des sciences, ça reste aussi de questionner la société par rapport à tout ça, par rapport à ces évolutions, et qu'est-ce que les scientifiques en pensent ? Et quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter au débat? Qu'est-ce qui peut vraiment être mis sur la table en train de se dire bon, allez, jusqu'où on va? Il y a des gens, quand ils voient Poppy bouger, ben, des fois ça les dérange.
Ça ne veut pas suffire.
Ça ne veut pas suffire. Non, ça ne veut pas. Mais tu lui demandes gentiment? Avise-toi, s'il te plaît. En plus, t'as le truc qui bloque, du coup, tu peux rien faire, quoi.
Si, je lui mets un peu. De toute façon, tu peux voir en bas si ça
va. Faut pas forcer. Il n'y a pas de travers là, non, il est bien.
Il est tout droit. Là. Bah Thomas, essaye, puisque t'es plus gentil que moi. Tu vois.
T'as cru ?
Oui, tu peux.
Non, ça a l'air de. C'est
tu peux le faire, président.
Ah ouais, donc.
Hésitez.
C'est
le
bon,
c'est pas la bonne clé déjà.
Bah voilà.
Ah bah voilà.
Bah voilà, rien. C'était pour ça que j'arrivais pas, vas-y, repasse.
Bah voilà,
tu tournes dans le vide.
Donc on est une moyenne de à peu près 12 minutes par vis. Il y a combien de vis dans le robot? C'est une bonne question. Oui, bien sûr.
Très rapidement, hier, on était vraiment sur du montage. C'est davantage pendant la soirée en fait qu'il y a eu. Il y avait un. Ouais, on a vraiment fait une soirée thématique robot avec des gens sont venus costumés, on ramenait des robots. C'était assez sympathique. Et un peu à discuter avec les différentes personnes qui étaient là, qui voyaient les différents types de robots. Il y avait vraiment du robot qui était très jouet, il y avait Poppy, il y avait des robots qui étaient vraiment finis, comme le Nao d'Aldébaran, qui est capable de quasiment capable de communiquer avec des gens, donc c'est assez bluffant. Il a une bonne bouille, mais il pose aussi des questions. Et ouais, les gens étaient vraiment intéressés par ces questions, et de se dire, ben ouais, le robot, il évolue, le robot... Mais comme je disais juste avant, hein, c'est le robot évolue, mais il évolue d'un côté humanoïde plutôt. Et d'un autre côté, mais des robots, ça fait des années qu'il y en a, ça fait 40 ans qu'il y en a dans des usines pour assembler des bagnoles. Maintenant, il y a des aspirateurs automatiques et des choses comme ça. Donc, ouais, c'est... La question se pose de se dire, ben, il y a bon robot, il y a mauvais robot, voilà. Et là, c'est une série qui a bien marché, c'est la série Real Humans. Voilà, qui est vraiment, je la conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'elle soulève énormément de questions par rapport à ces choses-là. Et il y a beaucoup de réponses à ces questions du rapport entre l'homme et l'humain qui, à mon avis, pourront peut-être être résolues à la fois avec les scientifiques, mais aussi avec tout cet aspect culturel où on s'est déjà posé des questions.
Est-ce que ces questionnements, et puis ensuite les tâtonnements techniques, du côté mécanique, etc., qui ont pu être faits jusqu'ici, est-ce que ça a créé peut-être des plateformes d'échange entre les utilisateurs de Poppy, ceux qui ont pu l'expérimenter? Est-ce qu'aujourd'hui, les scientifiques et les citoyens échangent et essaient d'avancer tous ensemble au travers de plateformes diverses et variées?
Dans l'ensemble, oui, c'est valable pour à peu près toutes les technologies et à peu près toutes les avancées. Et aussi toutes les régressions. C'est les communautés, notamment les communautés en ligne, c'est quelque chose de tellement vaste. On retrouve notre monde réel quasiment intégralement en ligne par rapport à ce qui est des sujets de discussion, des sujets d'engueulade. Voilà. Concernant Poppy, on est vraiment sur de la nouveauté. C'est la première fois qu'il y a un événement très grand public autour de Poppy. C'est la première fois qu'il y a un événement où on intéresse les communautés à venir voir Poppy. Donc les communautés sont un petit peu balbutiantes. Un des buts de l'opération qu'on a aujourd'hui, c'est de créer ces communautés de manière à ce qu'elles ils apprennent à se rencontrer et qu'ils se disent « Tiens, on va revenir au lab, on va revenir à l'espace des sciences pour essayer d'avancer avec Poppy. » Donc à nous, en tant qu'animateurs, scientifiques et techniques, de leur proposer des espaces d'expression aussi, ou des espaces, des moments de rencontre, que ce soit en ligne et hors ligne, bien entendu, pour que cette communauté puisse évoluer. Voilà. Dans le montage à proprement parler, à l'occasion de ces ateliers, il y a eu des échanges qui ont été faits sur les réseaux sociaux. On s'est retrouvé parfois, à Grenoble ou à Toulouse, à avoir un problème avec une vis qu'on avait résolu à Paris ou à Caen. Et c'était aussi l'occasion de croiser un peu les choses et de faciliter le montage des uns et des autres. Donc c'est déjà une première chose, en fait, la dématérialisation des échanges, en tout cas la synchronisation qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux, a déjà permis, lors des ateliers, concrètement, d'avoir un petit bout de communauté qui commence à se créer. Donc la graine est plantée et on invite tous ceux qui s'intéressent à passer au lab pour pouvoir... participer.
On bosse sur un robot qui s'appelle Poppy. En fait, là, on est en train d'assembler la main. Et on est en train de visser, en fait, le moteur. Ouais, c'est galère.
Quand on arrivera à mettre la vis.
Vas-y, je pense que j'ai une idée, t'inquiète. J'ai déjà fait ça plusieurs fois.
Ça glisse là.
Tu fais ça comme ça, mon gars.
Oh, remarque, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée.
En fait, c'était où quand c'est là, c'était là. C'est bon, t'inquiète. Il est ?
C'est là ?
Ah, c'est bon, j'ai vu.
Voilà, mais c'est ça l'idée. Bravo.
C'était la technique.
Franchement, bravo.
La faune, un peu. Aïe. Est-ce que ça va bien vouloir sortir? C'est bon. C'est bon, là, ça... on peut visser maintenant.
Alors une dernière question peut-être pour toi, c'est de savoir si on prend des risques aujourd'hui à rapprocher ce type de démarche, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le do-it-yourself ou le courant des makers. Donc c'est des courants philosophiques et politiques qui commencent à être à peu près bien identifiés par les sciences sociales, les sciences humaines, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on peut rapprocher cette démarche-là de ce type de courant?
Personnellement, je pense que oui, étant donné que c'est un robot qui est open source, qui est fait dans un lab, qui est vraiment le lieu emblématique des hackers, c'est du do-it-yourself, enfin davantage du do-it-yourself. Donc ouais, on rentre complètement dans la même philosophie, et je pense qu'il y aura des gens qui bossent sur la philosophie du do-it-yourself, qui vont se réapproprier ce robot, de la même manière qu'ils ont pu se réapproprier d'autres choses, voilà. Et les évolutions qui auront lieu sur Poppy, à mon avis, prochainement, viendront de ces communautés qui sont en train de se créer, qui sont en train de se monter, et qui vont apporter énormément de billes, en fait, à des projets un peu fous, ou des projets qui vont changer le monde, comme on a pu déjà voir émerger depuis tous les Fab Labs qui existent dans le monde, ou tous les hackerspaces.
Oui, c'est un petit peu... J'ai enfoncé déjà un peu...
Non, c'est moi qui ai appuyé.
Il est peut-être déjà trop foncé, non?
Non, c'est moi qui ai forcé.
Les gorges, là, sont faites. Je vous amène deux.
Ça y est, oui. C'est bon.
Il faut agrandir les trous qui sont là.
On peut se servir de temps en temps, on a une lampe loupe pour. C'est la partie peut-être, une des parties un peu délicates pour ces moteurs-là, parce que sur les autres modèles, on bénéficie d'un petit peu plus de flexibilité, mais c'est vrai que c'est un petit peu... On les fait en tout.
On la voit que de face,
ouais,
là
voilà.
On la voit plus. Quoi.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
C'était le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Retrouvez le podcast de ce nouveau numéro sur www.radiocampusrennes.fr.